Prendre la question avec Wendy Bouchard 9h, sur Europe
11h.
1. Wendy Bouchard.
Et un double jingle pour cette entrée en matière. Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec 2 sujets à la une, comme je vous le disais avec Nikos. La politique d'abord et des parlementaires qui en bout de course vont participer au grand débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui, au Sénat demain et mercredi. Après 3 mois de discussions locales, la parole s'échange donc dans les hémicycles. Grand débat qui s'achève demain en Corse en présence d'Emmanuel Macron. Que peut-il en espérer alors que son entourage le dit épuisé? Où le président peut-il trouver le second souffle nécessaire aux 3 ans à venir pour les Français? Vous réagissez avec nos invités, ils vous écoutent et le standard est ouvert, ma chère Julie.
Le 39-21.
Et puis à 10h, on va plonger dans les eaux mystérieuses des océans avec une exposition à la hauteur de l'enjeu au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Des océans pollués, mais des océans régulateurs du climat. Des espèces incroyables qui inspirent la médecine. Le biomimétisme en marche, là encore, on vous éclaire. Jusqu'à 11h, c'est le sommaire de ce mercredi 3 avril.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités, Olivier Véran, bonjour.
Bonjour.
Député La République en marche, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Vous êtes par ailleurs médecin hospitalier, neurologue. Vous avez beaucoup échangé sur cette antenne, notamment sur le débat sur notre santé 2022. Olivier Beaumont est avec nous, grand reporter au Parisien. Bonjour,
bonjour
Olivier. Et Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de l'Institut de conseil et d'études PollingVox. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Avec cette longue séquence des Gilets jaunes dont on a parlé régulièrement, on a quand même le sentiment d'un livre des records, 21 semaines de mobilisation d'un côté, un tour de France de 80 jours pour Emmanuel Macron de l'autre et un grand débat qui s'achève donc dans quelques jours après 100 heures de discussion. Si vous voulez bien, on va réagir d'abord à l'ampleur et à son sens, Jérôme Sainte-Marie. On est là dans une démonstration quasiment de souffle marathonien. C'est un peu à celui qui tiendra le plus longtemps dans sa conviction.
Par rapport au grand débat, oui, certainement. C'est-à-dire qu'on a effectivement quelque chose qui a commencé très fort et qui, à vrai dire, a tendance un petit peu à s'éterniser. Alors, ça a commencé très fort, déjà. Moi, de mon point de vue, si vous voulez, celui de l'opinion, ça a eu un effet extraordinaire. C'est-à-dire que, je prends les chiffres de l'IFOP, entre décembre et février, la cote présidentielle remonte de 11 points. C'est-à-dire que les Français apprécient énormément cet exercice, reprennent confiance pour une minorité d'entre eux, mais une minorité importante dans les capacités du président. Et pour tout dire, depuis à peu près un mois, on est dans une espèce de faux plat parce que ça dure beaucoup. L'exercice commence à tourner de plus en plus à la performance sportive ou à ces joueurs d'échecs, vous savez, qui d'abord se battent contre un joueur, puis contre 10, puis contre 20. Et là, c'est vrai que la juxtaposition, par exemple, du grand débat organisé avec les intellectuels français, puis ensuite avec les enfants, commence à faire perdre de son sens à l'exercice présidentiel.
Oui, on va revenir sur tout ça dans le détail. Olivier Beaumont, en tout cas, c'est Emmanuel Macron qui avait souhaité ce grand débat, ces débats en région. Il les a accomplis avec la performance, disait Jérôme, 7 heures en moyenne. Et ça restera inédit pour un président, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit.
Oui, c'était du jamais vu. Et puis, les Français, c'est vrai, Jérôme Sainte-Marie a raison, sont passionnés quand même pour cette prestation, quand même, parce que ça a été retransmis par les chaînes d'infos en continu, avec des bons scores d'audience. Au début, seulement au début,
oui,
sur les 3-4 premières,
quand même, hein.
Et après en effet il y a eu ce véritable phénomène d'usure, et on voit depuis maintenant 15 jours que ça devient très compliqué. Moi j'ai été marqué quand même par ce déjeuner avec les élus des Hauts-de-France,
oui,
vendredi à l'Élysée, où une partie quand même des parlementaires, que ce soit des Républicains, la France Insoumise et du RN, ont boycotté le rendez-vous, ce qui est quand même assez inédit quand on est invité par le président de la République à l'Élysée. Il y a l'usage républicain qui fait que on vient, même si on est en désaccord. Et puis cette salle aussi, moi j'étais présent, qui s'est vidée, c'est-à-dire que ce déjeuner, qui a duré cette fois-ci beaucoup moins de temps que prévu, environ un petit peu plus de 4 heures, cette salle était à moitié vide.
Ça veut dire
à
quoi? Il y a une lassitude qui s'installe?
Complètement.
Trop d'échanges, trop de débats.
Une lassitude, trop d'échanges, et puis des sujets qui, ça c'est la... Malheureusement, c'est la règle, mais c'est les sujets qui reviennent en permanence, c'est toujours les mêmes. Il y a le problème de DGF, de problème de déserts médicaux, donc c'est là que vous dansez un peu toujours les mêmes questions. Il y a Emmanuel Macron qui en vient à faire des réponses quasi mécaniques en fait à chacune de ses prestations maintenant.
Alors il n'oublie pas Emmanuel Macron les parlementaires dont vous êtes, Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère. Vous êtes associé depuis hier à ce grand débat dans l'hémicycle. Les sénateurs le seront aussi aujourd'hui et la semaine prochaine. Que retenez-vous, vous, de cette première et longue séquence de grands débats qui vous arrive aujourd'hui à l'Assemblée?
Les parlementaires sont associés depuis bien plus longtemps qu'hier. Nous avons, pour la majorité, organisé ou participé très directement à l'organisation de plus de 1000 événements dans nos circonscriptions. J'en ai fait 4 ou 5
dans le cadre du grand débat.
Dans la circonscription Grenoble-Est, oui. dans le cadre du grand débat. Donc on y participe. Ce qu'on a fait hier, l'exercice qui a eu lieu hier et qui aura encore lieu aujourd'hui, c'est une répartition sur 4 thèmes des parlementaires, de la majorité et de l'opposition, qui décident de créer les conditions d'un débat dans l'hémicycle. Il n'y a pas de raison qu'on puisse débattre de tout, partout, sauf à l'Assemblée nationale, dans l'attente des restitutions la semaine prochaine.
Oui.
L'attente, elle est importante. En fait, je crois que dans le phénomène de lassitude d'un certain nombre d'élus ou de participants qui vient d'être cité, il y a aussi le fait que beaucoup de choses ont été dites.
Oui.
En fait, il y avait besoin.
Oui.
2 millions de personnes, 2 millions de contributions en ligne, plus de 10 000 réunions dans les territoires, des gymnases, des mairies, des salles des fêtes, des entreprises, etc. Donc, il y a une attente qui est très forte. Les contributions sont remontées, elles sont en cours de traitement. Mmh. On sait que ça va arriver. Donc, on se dit que cette période-là est terminée, la période de la concertation, en tout cas sur cet exercice de concertation démocratique. Maintenant, on attend les propositions et ensuite la mise en œuvre.
C'est ça, on se dit assez parlé, quoi.
Voilà, hein, et comme citoyen, comme parlementaire de la majorité, comme passionné de politique, j'attends, comme énormément de Français maintenant, de savoir ce que ça va donner.
Oui.
Voilà, à la fois la synthèse, ce que veulent les Français, les contributions, et ensuite ce que va décider le président de la République,
alors,
le gouvernement.
Vous parlez de contributions, 2 millions de contributions, ça ne va pas dire 2 millions de contributeurs, Jérôme Sainte-Marie, il faut être clair quand
absolument,
même.
Absolument,
hein,
c'est un point important. Le gouvernement communique en permanence sur les contributions, d'autres soulignent, il y avait un article du Monde assez intéressant là-dessus, qu'on peut très bien avoir plusieurs contributions par contributeur. Donc je ne connais pas, à vrai dire, les chiffres du nombre de contributeurs, mais on sait que ce n'est pas 2 millions. Quoi.
Mais un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a près de 3 millions de visiteurs uniques sur le site du Grand Débat. Alors
ça a intéressé, mais ça dure peut-être un peu trop.
3 millions de visiteurs uniques sur un site qui traite du Grand Débat, qui traite de questions politiques. Franchement, moi j'aurais signé pour 2 ou 3 fois moins. Là, honnêtement, en termes de mobilisation, on est au-delà de ce qu'on avait imaginé.
Oui, mais si on écoute ce que disent les garants, vous savez, les 5 garants, et notamment Pascal Perrineau, Pascal Perrineau avait considéré, je crois, que les interventions du président de la République, l'omniprésence même du président dans ce grand débat,
créer des interférences. Hein.
Créer des interférences, c'est-à-dire qu'effectivement, ça devenait une opération Macron. Ce qui fait que ça a eu tendance, apparemment, à mettre de côté ceux qui voulaient exprimer un sentiment qui n'était pas forcément totalement favorable au président de la République et qui se sont tenus à l'écart. Visiblement, si vous voulez, la population gilet jaune a relativement peu participé.
C'est ce que j'allais vous dire. Parce que c'est bien
à ce débat,
de rencontrer les intellectuels, de rencontrer les enfants, de rencontrer les élus, mais les gilets jaunes dans tout ça, ceux qui ont commencé à se mobiliser il y a 21 semaines maintenant, Olivier Beaumont, ils n'ont pas été si clairement associés que ça
à
ces
échanges. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu aussi se présenter lors des réunions publiques. Ils pouvaient, vraiment. Donc,
L'axe des déplacements d'Emmanuel Macron n'était pas celui-là.
Oui, après, il faut savoir de qui on parle exactement dans les gilets jaunes. C'est toute la problématique depuis des semaines. Ceux qui manifestent le samedi, ceux qui cassent, sont-ils vraiment des gilets jaunes?
Et
ceux qui sont encore sur les ronds-points, eux, par contre, sont peut-être les plus irréductibles, Mais non, les gilets jaunes, maintenant, ils attendent comme une... Enfin, je pense qu'une grande partie des Français au début du mouvement se sentaient un petit peu gilets jaunes, en tout cas ceux qui n'étaient pas contents de la politique qui était menée et qui avaient des attentes fortes en termes notamment de pouvoir d'achat et de fiscalité.
Mais c'est quand même tous les Français qui attendent des réponses aujourd'hui,
exactement,
hein, et pas simplement les gilets jaunes irréductibles. Qu'aura gagné Emmanuel Macron dans cette bataille? Vous pouvez vous exprimer sur le sujet au Standard Europe 1, on vous donnera aussi le résultat de notre consultation. Est-ce qu'il peut faire remonter le président sa cote de popularité à l'issue de ce grand débat? On fera le point d'ailleurs sur la cote de confiance également. A tout de suite et jusqu'à 10h sur Europe 1 avec nos invités. Et vos appels au Standard, Julie.
Au 39 21 50 centimes la minute.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur l'état de la Macronie à la fin du grand débat. Wendy Bouchard.
Emmanuel Macron se rend demain en Corse, dernière étape de son marathon lié à ce grand débat. Il va rencontrer des élus de Lille, enfin certains, parce qu'il y a pas mal d'appels au boycott des nationalistes et un regain de tension insulaire. Encore une épreuve pour un président qui ne s'est pas ménagé ces derniers mois. Quitte à en payer le prix aussi, car son entourage s'inquiète. Olivier Véran, je ne sais pas si c'est votre cas, vous êtes député La République En Marche de l'Isère. Heureusement qu'il est maquillé, disent certains proches, sinon on verrait qu'il est sous l'eau, lessivé, rincé. Qu'en dites-vous, si vous avez des liens un peu et des échanges réguliers avec lui?
On vient de parler là, pendant 10-15 minutes, de la place du président de la République dans le grand débat, des marathons, des réunions énormes qu'il a pu assumer, du contexte politique actuel. Enfin, je trouve déjà qu'il est incroyablement résistant d'arriver à faire des débats de 6, 7, 8 heures sans faire d'erreur. Sans faute sur le plan technique, sur le plan des connaissances, il est parfaitement à jour des dossiers, etc. Si en plus il n'y avait pas un peu de fatigue, j'imagine que là on se poserait vraiment des questions. Donc non, honnêtement, le président de la République, j'ai eu l'occasion de faire un déplacement avec lui il y a quelques années de ça. Il n'était pas président, on était parti à l'étranger pour un forum sur le numérique. C'est quelqu'un qui a une capacité de travail, une force de résistance physique qui m'avait déjà vraiment bluffé à l'époque. Donc ça, c'est un atout, hein. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est même probablement inné, donc il a ça avec lui. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui est extrêmement concentré sur ses dossiers. Je vois pas de...
Non, bien sûr, il a voulu prouver en tout cas que techniquement,
presse,
j'ai lu un article,
d'autres articles dans la presse disant qu'il était fatigué, etc. Honnêtement, c'est pas ce que je perçois comme député de la majorité. Maintenant, je dis pas que je détiens la vérité nécessairement, mais
les dernières
fois que j'ai pu le voir,
ou discuter, ou l'apercevoir,
j'ai trouvé qu'il était celui que je connaissais auparavant. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de phénomène de fatigue. Je pense que, par contre, il y a un sens des responsabilités majeures dans la période. On ne peut pas se planter sur la sortie du grand débat. Mmh. On a connu, on a senti le vent du boulet passer à la fin de l'année, la période de Noël, début d'année, le mouvement des Gilets jaunes, les violences.
C'est ce qui le rend très imprégné, très fermé.
Oui. Non, mais on est à un carrefour. D'un côté, vous avez un mouvement social assez inédit qui s'est déroulé dans notre pays, avec des violences très importantes qui ont fini par inquiéter les Français. De l'autre côté, vous avez une montée des populismes très forte, à la fois en France, à la fois dans l'ensemble des pays européens, le tout à quelques encablures d'une élection européenne d'importance vitale pour notre pays et notre continent, le tout dans un bazar pas possible créé par nos amis les Anglais qui savent plus où ils en sont par rapport à leur Brexit. J'ai le contexte international qui est vraiment le contexte aussi qui préoccupe beaucoup le président de la République. C'est normal, c'est aussi dans ses missions premières.
Il y a un contexte. Et est-ce qu'il s'est mis aussi sur les épaules, Olivier Véran?
C'est pas ce qu'il s'est mis sur les épaules.
80 jours de marathon, c'est quelque chose qui s'est imposé.
Lorsque vous avez un pays qui se fissure, qui se fracture, lorsque vous avez des manifestations, lorsque vous avez des revendications, des attentes avec des gens qui se tournent vers le populisme et que vous êtes président de la République, vous ne vous mettez pas quelque chose sur les épaules. Vous portez naturellement, de par vos fonctions, de par vos missions et et vos compétences,
sauf qu'on a
cette responsabilité
qu'il a pas
collective.
D'équipe. On va en parler de cette équipe, Olivier Véran. On sait bien que vous êtes à ses côtés et depuis suffisamment longtemps pour le connaître et voir comment il évolue, comment en effet il connaît les dossiers sur le bout des doigts. On peut pas lui reprocher ça, Olivier Beaumont. C'est même cette démonstration qu'il en a faite en côtoyant tant de catégories sociales, tant d'univers différents. C'est dans la communication aussi qu'il a voulu exprimer ça, c'est-à-dire moi, président, je sais parler à tout le monde aussi, et je connais tout sur ces dossiers.
Le meilleur communicant d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même, en fait. Il en devient presque aujourd'hui, on va sûrement l'aborder dans cette émission, mais aussi usé et fatigué par sa pratique solitaire, quelque part, du pouvoir. Donc, Emmanuel Macron, il faut aussi rappeler que ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas pris de vacances. Ça fait ses véritables congés, ça remonte à l'été dernier.
Quand il prend un week-end au ski, c'est compliqué.
Quand il a voulu prendre deux jours, en effet... il a dû revenir très très vite parce que il a été rattrapé par l'actualité, par la crise des Gilets jaunes et en effet les émeutes qu'il y avait sur les Champs-Élysées.
Et Brigitte Macron a fait son mea culpa.
Et Brigitte Macron a fait son mea culpa.
Qui lui avait demandé de le rejoindre.
Donc Emmanuel Macron, il ne dort que 4 heures aussi par nuit. Donc ça doit être un guerrier, une machine, un cerveau hors norme, hein, comme disent tous ceux qui le pratiquent. Il y a aussi ces marques aujourd'hui d'irascibilité que peuvent décrire parfois ses collaborateurs, ces soupirs qu'il n'avait pas forcément avant. Et j'ai envie de dire aussi, c'est un petit peu de sa faute aussi quelque part.
C'est parce votre que... journal qui a lancé cette.
Mais c'est un peu sa faute aussi, parce qu'on voit que Emmanuel Macron a du mal à déléguer, il veut maîtriser l'ensemble des sujets sur le bout des doigts, donc on l'a vu dans ce grand débat où à chaque fois il est capable de répondre sur n'importe quel sujet, même un petit sujet local, il le connaît, il le maîtrise, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a cette concentration autour de lui, autour de sa personnalité, qui fait que les attentes ne se font que exclusivement autour de sa propre personne, et il n'y a pas assez d'appui, pas assez de relais, excusez-moi, mais autour de lui, pour pouvoir l'alléger aussi.
Jérôme Sattemarie là-dessus, et après on va revenir dans le détail. Sur cette communication.
Cette concentration, si vous voulez, de l'attention sur le président de la République est logique sous la Ve République, elle a quand même de nombreux effets pervers, notamment parce que la personne d'Emmanuel Macron est quand même profondément impopulaire. Je regardais ce matin le dernier sondage IFOP. Vous avez 31% des Français qui ont une bonne opinion de l'action d'Emmanuel Macron, enfin, comme président de la République. 31%, c'est une mesure plutôt haute. Il y a d'autres instituts où c'est plus bas. C'est 31%, c'est quand même, ça reste quand même très minoritaire. C'est plus bas que Nicolas Sarkozy au même moment de son quinquennat. Et puis surtout, en face, vous avez non seulement une majorité très large, 69% des Français qui ont une mauvaise opinion du président de la République, mais même 38% qui en ont une très mauvaise. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de radicalité dans l'opposition à Emmanuel Macron qui se maintient et qui est entretenue aussi par Emmanuel Macron lui-même.
Très mauvaise et pas sur sa gestion des dossiers, enfin pas sur sa connaissance des dossiers.
Oui, par ce qu'il donne à voir de lui-même, y compris par ses petites phrases. La dernière étant la phrase malheureuse sur la retraitée qui a été bousculée à Nice. C'est quand même, si vous voulez, ça. Il y a un espèce de contentieux entre lui et une bonne partie de la population qu'on ne peut pas ignorer. Et comme il n'y a pas d'autres figures qui apparaissent. La figure du Premier ministre, qui est davantage appréciée par les Français d'ailleurs, eh bien cette figure est quand même très discrète, mm-hmm. je dirais même presque de plus en plus. On n'a pas vu à l'occasion des derniers remaniements, du petit remaniement technique là, qu'on a eu récemment, on n'a pas vu apparaître de nouvelles figures réellement. On
ni la main d'Edouard Philippe.
Voilà, on transforme des collaborateurs élyséens en ministres. Alors, il y a des précédents. Par exemple, Emmanuel Macron lui-même était devenu ministre de l'économie après avoir travaillé à l'Élysée. Mais enfin, évidemment, ce n'est pas un signal d'élargissement et ce n'est pas quelque chose qui permet de composer ce que Lionel Jospin avait appelé la Dream Team, vous savez, c'est-à-dire effectivement avoir des figures comme ça ou plusieurs catégories de Français pourraient s'identifier à tel ou tel. Donc là, tout repose sur les épaules du président de la République, ce qui donne évidemment une impression parfois de grande fragilité.
Hyper concentration du pouvoir sur laquelle je vais faire réagir dans un instant, juste après la pause, le député La République En Marche de l'Isère, Olivier Véran. À l'occasion aussi de ce mini remaniement qui veut dire des choses sur la stratégie d'Emmanuel Macron. Justement, a-t-il été à l'écoute de ce que dit la rue depuis 21 semaines ? Eh bien, nous en parlons jusqu'à 10h sur Europe 1, tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Question Facebook du jour, notre consultation interne. Selon vous, Emmanuel Macron peut-il faire remonter sa cote de popularité à l'issue du grand débat ? Non à 74%, il y a eu 6000 votes. Pour moi non, nous dit Evelyne, sans aucun doute possible, le grand débat ne sert à rien et c'est juste une campagne électorale. Quand on est président, on n'a pas besoin de ça pour voir que le peuple de France souffre.
C'est intéressant ces réactions parce que finalement, comme Jérôme Sainte-Marie le disait, politologue et représentant de l'Institut de conseil et d'études PollingVox, il y a eu quand même un bon effet grand débat au départ. Apaiser la colère sociale, reprendre les choses en main, le fait est que ça a beaucoup duré et que peut-être finalement on a perdu le sens de ces échanges, le sens même de cette démocratie participative avec cette consultation Facebook qui n'a pas valeur de sondage mais qui dit que finalement les Français n'attendent pas grand-chose, Olivier Véran. Et ça, c'est dur pour le représentant du peuple que vous êtes, député.
Mais c'est dur depuis des années pour les représentants du peuple, à la fois pour moi, à la fois pour mes collègues, mais la majorité de l'opposition des quinquennats précédents. Mais attendez, on n'est pas en train de découvrir que sous la Ve République, un président souffre d'un problème de popularité. Lorsque vous regardez d'ailleurs les sondages de popularité de l'ensemble de la classe politique, je crois que vous avez deux personnalités qui remportent un assentiment positif général. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont au-dessus de 50%. Deux personnes politiques. Je crois que c'était Alain Juppé et Nicolas Hulot. C'est-à-dire, l'ensemble de la classe politique est en dessous. La cote générale de confiance dans la classe politique est de 6%. Je fais souvent cette allusion au fait que je suis médecin hospitalier le lundi matin, j'ai un taux de confiance de 84%. Je sors de l'hôpital, je mets l'écharpe tricolore, je tombe à 6%. C'est-à-dire, il faut aussi qu'on relativise avant de personnaliser l'enjeu. On a un vrai problème de confiance des Français dans leur classe politique. Et donc, quand vous posez la question, vous mettez n'importe quelle question, n'importe quelle personnalité derrière sur la cote de popularité ou n'importe quel événement, en disant est-ce que la personne peut être populaire demain, on vous aurait 74% de non.
Je veux dire, mais il y a un problème, entre guillemets, Macron sur l'hyper-concentration du pouvoir.
Il y avait un problème Sarkozy. Dans le quinquennat
peut-être,
Sarkozy, très rapidement, les gens considéraient qu'il était agressif, qu'il était trop personnel, qu'il pilotait tout depuis le château. Et très vite, les gens avaient un mouvement de détestation pour Sarkozy. Personne ne peut dire le contraire. Dans le quinquennat Hollande, j'étais député socialiste sous Hollande.
Oui.
Dans le quinquennat Hollande, il n'a pas fallu un an pour que les gens nous disent « on n'y croit plus ». Bon, voilà, il fera pas, voilà, quoi qu'il fasse, de toute façon, ce sera mou, ce sera de la politique. Il n'y aura pas de politique tranchée, on n'y croit plus, on n'a plus
mais
confiance.
Olivier Véran, quand
là,
vous n'avez ni détestation, ni
politique molle. Vous avez des gens qui contestent une ligne politique qui peut être conduite. Il y a des gens qui contestent la situation dans laquelle se trouve le pays ou l'Europe aujourd'hui. Mais il n'y a pas, si vous voulez, honnêtement, je vous le dis très sérieusement et très honnêtement, je ne sens ni détestation, ni décrochage en termes de confiance. Et ce qu'a montré le grand débat, et j'ai vu beaucoup de gens qui me l'ont dit, y compris des gens qui n'ont pas voté Macron ou qui ne sont pas favorables à sa politique aujourd'hui, qui disent mais pas ok, c'est vrai qu'il est bon. Voilà, et c'est vrai qu'il est bon. Donc cet épisode du grand débat, c'était pas une campagne personnelle, mais a montré pour ceux qui en doutaient encore qu'on avait un président qui était à la hauteur.
Okay,
maintenant, en termes de confiance,
Olivier,
c'est un problème général. Enfin, sinon, on passe à côté de l'enjeu.
Il était à la hauteur dans l'oralité, dans l'échange, etc.
Dans
maintenant,
la connaissance, la maîtrise
des dossiers,
ça compte.
Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la majorité que vous ne pouvez pas dire les choses à votre chef ? C'est-à-dire que tout ce qu'on entend aujourd'hui traduit bien d'une vérité ou d'un sentiment général.
Vous
le croisez, vous ne lui dites pas qu'on ne peut pas lui parler à Emmanuel Macron.
Je dis des choses. La semaine dernière, il y a eu une sortie malheureuse, pas du président de la République, mais il y a eu des sorties malheureuses sur la question de la durée de cotisation des retraites, où il a été question qu'on pourrait finalement travailler plus longtemps, etc., alors qu'il y avait un engagement de campagne et que ce sujet-là n'a pas été débattu avec les parlementaires, la majorité. Moi, je suis sorti, d'ailleurs publiquement, pour dire que ce n'était pas du tout la solution qui avait ma préférence. Et on est capable de le dire, de faire remonter.
Oui.
Personne personne ne m'a appelé, là, ni à Matignon, ni à l'Élysée, pour me dire tu n'as pas le droit de dire ça. Il faut être... enfin, dire, voilà, on peut... bien sûr que si, qu'on peut parler au président de la République. Bien sûr que si.
Ah bon ?
Bien sûr que si.
Bien,
on peut lui envoyer
alors.
Des notes, on peut le. Parfois, il répond, parfois, c'est plus compliqué, parce que ça tombe dans des périodes dans lesquelles il reçoit, il est bombardé de notes ou il est dans les arbitrages. J'imagine que cette période-là, enfin, pardon, hein. Mais on est tous suspendus. Moi aussi, comme parlementaire de la majorité, je suis suspendu aux décisions, ou en tout cas aux annonces qu'il va faire. Quelle sera la forme ? Est-ce qu'il y aura
Olivier
un référendum ? Est-ce qu'il n'y en aura pas ? Est-ce qu'on va avoir une loi ? Est-ce qu'il n'y en aura pas ?
Voilà. C'est tout à votre honneur de parler de dossiers, de fonds. Moi, je parle de personnes. Et c'est le sentiment, en code de popularité, que renvoie aussi Emmanuel Macron, c'est-à-dire, dans les couloirs de l'Élysée, paraît-il, on ne croise plus personne, Olivier Beaumont.
Ah bah
c'est pas possible d'imaginer un président si esselé.
Le château s'est vidé.
Mais c'est incroyable.
Oui, puisque tous les soldats de la première heure sont partis les uns après les autres et dans une période très, très concentrée finalement, depuis seulement quelques semaines. Il y a eu Ismaël Emelien, il y a eu Sylvain Faure, sa plume au tout début, il y a eu Stéphane Séjourné, maintenant Sibeth Ndiaye qui s'occupait de la presse, qui rentre dans le gouvernement. Donc il y a vrai qu'il y a, il y a tout un couloir, toute une aile du palais de l'Élysée, juste au-dessus du bureau du président d'ailleurs, qui s'est vidé. Il n'y a plus qu'une seule personne qui est là à mi-temps, c'est Philippe Grandjean, le communicant, qui n'était pas là au début de la campagne, enfin, en tout cas, il ne faisait pas partie de cette bande-là, et donc il y a ce sentiment en effet de président qui est seul et qui s'est détaché de ses fidèles, et qui parle encore aujourd'hui à Emmanuel Macron finalement. Alors il y a ces fameux visiteurs du soir qui sont un peu toujours les mêmes, donc alors, il y a François Bayrou, il y a Alain Minc, il y a Jean-Marc Dumonté, c'est toutes ces personnalités-là, c'est un univers qui est assez disparate. Emmanuel Macron en même temps, c'est quelqu'un à qui, alors moi je ne le fais pas, mais je sais que nombreux parlementaires, ministres lui envoient des textos, il répond souvent assez rapidement, assez facilement. Certains lui reprochent d'ailleurs de le faire. Est-ce que c'est vraiment à lui de le faire ? Là, on parlait du remaniement, on parlait du casting pour les élections européennes, pourquoi la constitution de la liste. Certains lui envoient directement des textos pour faire acte de candidature. Et certains lui disent le pire, c'est qu'il répondait.
Il
n'y a pas à répondre à ce genre de choses.
Juste une seconde, il y a deux mois, tout le monde disait le président de la République doit renouveler son entourage élyséen. Vous vous souvenez ? Tout le monde le disait. J'étais ici, je crois même sur Europe 1, on me l'a dit. Il ne peut pas garder la même équipe, il faut qu'il soit capable de changer, etc. Bon, ça change, on dit maintenant il est seul.
Non, mais non, c'est
juste le paradoxe.
Mais
ils ne sont pas remplacés.
Mais attendez, ils ne sont pas remplacés. Je peux vous garantir que l'Élysée tourne. Personne ne peut imaginer que le président de la République ait du mal à composer un casting de conseillers techniques capables de l'épauler et de le conseiller. C'est une évidence. On a dit, il doit changer son entourage, il doit renouveler, etc. Il y a un phénomène d'usure et puis il faut changer un certain nombre de choses.
Ça fait deux mois qu'il n'y a plus de directeur de la communication à l'Élysée.
Et vous avez bien passé pour le savoir, vous êtes reporter
avec Jean-Yves. Si c'était si facile que ça.
On vient de parler pendant une demi-heure de la communication du président.
Mais voilà, et on en revient à ce qu'on dit.
Que vous lui reprochiez.
On en revient à ce qu'on dit. Je pense qu'Emmanuel Macron.
La communication soit
n'a pas besoin de communicant. Son principal communicant, son meilleur agent, c'est lui-même.
Alors, juste après la pause, Jérôme Sainte-Marie a beaucoup à dire sur justement ce qui se passe aujourd'hui dans la communication de la Macronie, sur le choix notamment de ses nouveaux ministres, sa nouvelle garde. Quel remplacement aujourd'hui ? À tout de suite sur Europe 1 jusqu'à 10h. Quel avenir pour le président Macron ? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Olivier Véran, qui est député La République En Marche de l'Isère, rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Olivier Beaumont est avec nous, il est grand reporter au Parisien, auteur du livre « Les péchés capitaux des politiques » qui viennent paraître chez Flammarion en mars le mois dernier. Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut de Conseil et d'Études Pauline Vox, qui suit les manifestations pour étudier le mouvement des Gilets jaunes depuis le début.
Oui, et entre autres, de vos missions, cher Jérôme, on se demande si la Macronie peut retrouver un second souffle avec la fin de ce grand débat. Dernière étape demain en Corse, les parlementaires associés également à cette réflexion. Après 100 heures de débat, une hyper-concentration du pouvoir et un palais de l'Élysée, un château qui semble vidé de la garde, ex-garde rapprochée d'Emmanuel Macron, un président... seul, c'est le sentiment qui ressort aussi pour vous, politologue ?
Oui, en tout cas, c'est le sentiment qui commence aussi à se diffuser dans le pays. Encore une fois, le récent remaniement a eu un rôle un peu illustratif. Et c'est un contraste par rapport au début du quinquennat. Vous savez, il y avait effectivement un président de la République élu en réalité dès le premier tour avec 24%, une base originale, disons, mais une potentialité énorme de rassemblement vers la gauche et vers la droite. Et on avait l'impression, qui était d'ailleurs, c'est vérifié aux élections législatives qu'on suivait la présidentielle, que les partis anciens, les partis les Républicains, le Parti Socialiste, allaient être entièrement écartelés, cannibalisés, si j'ose dire, par le macronisme. Alors c'est en partie vrai, mais cette dynamique s'est bloquée. Si vous voulez, on reste le président de la République a retrouvé une popularité faible, mais comme le disait Olivier Véran, c'est vrai qu'il y a une tendance, comment dirais-je, historique, à l'affaiblissement de la popularité des présidents de la République. Maintenant, devenir président, c'est même une garantie de devenir impopulaire, plus ou moins rapidement. Mais je maintiens quand même que là, ça se teinte d'une détestation dans certains milieux sociaux, populaires notamment, tout à fait originale. François Hollande était déprécié, mais il n'était pas détesté. Attendez, comme il l'est à ce moment-là, il n'y avait pas l'équivalent, et ce n'est pas uniquement les sondages qui le disent, il n'y avait pas l'équivalent sous les quinquennats précédents de ce mouvement interminable des Gilets jaunes, avec effectivement pas tellement de manifestants, mais un soutien qui, quelles que soient les formes...
Et une cristallisation sur la personne du président.
Quelles que soient les formes que prend ce mouvement, on a toujours près de la moitié des Français qui le soutiennent, ou qui ont la sympathie pour lui. Ça dit quelque chose sur le mécontentement. Et pour parler un peu d'avenir, là où on rentre dans une période, à mon avis, un peu dangereuse pour le président de la République, et où cette solitude devient assez embarrassante, c'est qu'on doit sortir du grand débat. Donc, annoncer des choses, ça peut toujours créer... une forte déception. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que si le pays est dans cet état de nervosité perpétuelle, c'est aussi parce que pour l'instant, il y a très peu de résultats économiques à proclamer. Il n'y a pas d'avancée particulière sur le pouvoir d'achat ou sur le front du chômage, même si ça s'améliore un petit peu. En tout cas, ce n'est pas perçu. Or, il y avait une espèce de marché, de contrat qui était passé entre le Emmanuel Macron et votre majorité et les Français, de dire on ne va pas forcément mener la politique la plus juste du monde, on va même revenir sur un certain nombre d'éléments du modèle social, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tout mettre à plat parce que on va redynamiser complètement le pays. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que perçoivent les Français au bout de 2 ans.
Oui, et au contraire, il y a un sentiment de rétrécissement sur un certain nombre de personnalités rapprochées qui ne témoignent pas justement de ce que souhaitait le mouvement des Gilets jaunes. On va revenir dans un instant, juste après votre réponse, Olivier Véran, sur ce mini-remaniement avec des quasis inconnus, pardon pour eux, mais on n'est pas exactement peut-être dans l'attente des Français du moment. Olivier Véran, d'abord pour répondre...
Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas suffisamment de bonnes nouvelles qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas le mouvement En Marche qui le dit, c'est l'INSEE. C'est la première fois depuis 10 ans que le pouvoir d'achat des Français, dans leur ensemble, a augmenté de 1,1% en 2018. C'est la première fois depuis plus de 10 ans que la dette de la France, n'a pas augmenté, qu'elle s'est stabilisée avec une croissance de la dette de 0%. Nous avons réduit en 2018 le déficit de la sécurité sociale par 4. Réduit par 4. Par 4.
Dans cette hausse du pouvoir d'achat, vous intégrez les mesures prises annoncées le 10 décembre.
En décembre,
oui. Pour la première fois, c'est l'INSEE. Non, mais c'est l'INSEE qui le dit. C'est pas moi, c'est l'INSEE
Après,
qui le dit. C'est
des
indicateurs qui existent depuis des décennies. Pourquoi, quand ils sont bons, on les utiliserait pas ? Vous avez, pour la première fois l'année prochaine, nous aurons un budget de la sécurité sociale, non seulement à l'équilibre, mais excédentaire très probablement. Ça fait 20 ans que ça n'est pas arrivé. 20 ans. Vous avez l'augmentation de l'activité des entreprises qui a augmenté de 4% en 2018 dans l'ensemble de notre pays. Ça fait 10 ans que ça n'était pas arrivé.
Alors, c'est ça qui est grave, Olivier Véran. C'est qu'on a, on a des constats plutôt positifs et on a une perception très dépréciée des Français.
Et vous avez pour la première fois depuis près de 20 ans une réduction du niveau global d'imposition des Français. Donc c'est-à-dire que
ça veut dire qu'il y a un problème de communication
sur l'ensemble
d'Emmanuel
des critères, des paramètres sur lesquels nous nous sommes engagés, les indicateurs nous disent la situation, honnêtement, voilà. Alors après, la perception, vous avez raison de le dire, la perception n'est pas celle-là.
C'est ça le plus important.
Je vais aller sur suffisamment de ronds-points, dans suffisamment de mairies pour bien m'en rendre compte. On a supprimé beaucoup de cotisations salariales. Le niveau de moyen de quelqu'un qui perçoit le SMIC, il est augmenté de quasiment d'un 13e mois. On a supprimé la taxe d'habitation pour déjà 80% des gens progressivement, mais ça a commencé à baisser. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc, il y a ce problème de perception. Il y a ce problème aussi qui est nous. Comment est-ce qu'on arrive à promouvoir cette politique ? Comment est-ce qu'on arrive à parler aussi des nouvelles quand elles sont bonnes ? Voilà, quand on a des plans d'investissement à Grenoble, on a annoncé 5
Olivier
milliards
Véran,
d'investissements.
Olivier Véran, je peux vous poser une question parce que vous parlez beaucoup aussi.
4 millions d'emplois créés en 4 ans. Qui en parle ?
Olivier Véran, est-ce que, par exemple, toutes ces mesures-là, Emmanuel Macron ne devrait pas les porter plutôt que de se noyer, pardon, mais parce que ça dure, dans 6 ou 7 heures d'échange avec les Français où finalement on ressort la tête pleine d'infos, trop d'infos ?
Wendy Bouchard, on n'est pas. De façon générale, et ce n'est pas propre à ce mandat, nous ne sommes pas audibles. Quand je fais des grands débats, où j'ai fait des réunions préparatoires aux grands débats, avec des gilets jaunes qui sont venus et d'autres qui ne portaient pas le gilet, vous commencez par passer quasiment une heure à essayer d'écouter, de regarder, il y a un côté un peu exutoire, et lorsque vous arrivez en disant « mais attendez, le chômage s'est stabilisé, il est en train de baisser, le pouvoir d'achat augmente », si vous dites ça à des gens qui sont non seulement en colère, mais en plus très en attente, vous passez pour illuminé.
C'est grave.
Mais on a ce problème.
Ça vous le dit, ça, Emmanuel Macron ?
Mais c'est grave pour la démocratie. Je le pense sincèrement. C'est grave pour la démocratie que d'être en incapacité aujourd'hui, quel que soit le pouvoir politique en place, quel que soit le bord politique concerné, quelle que soit l'intelligence de la personne qui gouverne le pays, c'est pas ça qui est en jeu. C'est le rapport que nous avons citoyens avec nos politiques, et c'est pas un problème franco-français.
Il y a un problème conjoncturel.
Je rappelle qu'au Brésil, qui était à gauche depuis des années, qui était un pays avec l'émergence d'une classe moyenne, il a fallu 4 semaines pour quelqu'un comme Bolsonaro, qui était un extrême droite, soit porté au pouvoir. Je rappelle que même au Danemark, dans les démocraties du nord de l'Europe, que nous citons en exemple depuis des années, des décennies,
les mouvements néo-nazis
ont fait plus
répondre.
De 10%, etc. Ouais. Donc il faut aussi s'interroger sur le rapport que nous entretenons avec le mouvement démocratique, avec la politique. Il y a évidemment une responsabilité très importante de la part de ceux qui portent là, ce mandat et cette responsabilité, mais on a aussi cette espèce de mouvement sociétal qui est très fort.
Olivier Beaumont, est-ce qu'il y a un problème avec ce que représente la Macronie aujourd'hui, où on est dans quelque chose qui se répète dans l'histoire institutionnel et politique du pays.
En effet, Olivier Véran l'a rappelé, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui montrent que pour les Français, ça va pas si mal dans certains points, en effet. Mais le problème, c'est que tout ça a été parasité. On revient à notre sujet,
triste.
Par toute cette série de mauvaises phrases qu'on a eues quand même à partir de septembre jusqu'au début de la crise des Gilets jaunes, où quasiment jour par jour, on a tous chroniqué sur ces sorties malheureuses du président de la République qui ont fait que, pour les Français, ils n'ont retenu en effet que ça, parce qu'en politique, l'humain, les affects, l'identité, la personnification, c'est presque encore plus important quelque part que les idées, que la vision. En tout cas, c'est ce que les Français retiennent plus facilement. Donc, une mauvaise image, ça perturbe, ça parasite clairement le message de fond. Et ça, Emmanuel Macron le savait, il n'a pas pu s'empêcher de continuer. Et on a encore eu cette petite phrase avec cette femme, en effet, à Nice, qui avait été bousculée. Donc, il y a quand même un problème de communication majeur chez le chef de l'État. Et puis il y a on revient à ce que vous disiez sur le casting gouvernemental quand même, qui dit aussi des choses. Moi j'étais très frappé dimanche soir quand le communiqué d'Élysée tombe à 20h13. Tout de suite après, j'ai passé un certain nombre de coups de fil. J'ai des chefs de cabinet, des ministres et aussi des conseillers ministériels. Ils étaient tous stupéfaits quand même, parce que deux marcheurs de la première heure, que sont Benjamin Griveaux et Muriel Majoubi, quittent le gouvernement et ont fait entrer qui ? Deux marcheurs de la première heure, que sont Sibeth Ndiaye et Cédric O. Donc ça renvoie quand même à cette idée d'entre-soi, et le lendemain, en appelant un certain nombre de parlementaires, et aussi était très remonté quand même, parce que cette crise des Gilets jaunes, elle a dit quoi ? Que les Français en avaient marre justement de cet entre-soi, ils dénoncent toujours le poids des élites, et ce casting, quelque part, il renvoie à ça, à cet entre-soi.
On peut vous répondre entre-soi ou fidélité, Olivier Beaumont.
Il y a une volonté d'aspiration et d'ouverture. Et puis ça dit aussi que, problème clairement de bande-touche aussi, qui touche, on l'a vu lors des précédents remaniements, mais il y a eu 6 jours d'attente sur ce casting pour au final avoir sur 3 nominations 2 conseillers d'Élysée. Donc c'est quand même, ça montre que tout ça circule en circuit fermé.
Ça traduit quoi pour vous, Jérôme ? Ça te paraît un rétrécissement ou au contraire, on se rétrécit sur cette garde rapprochée dont on sait qu'elle est fidèle et qu'elle est exécutante.
Oui, puisqu'on parle de la vie de la cour, si j'ose dire, il faut quand même, à ce moment de l'émission, si vous voulez, prononcer un nom propre, le cadavre dans le placard, c'est bien sûr Benalla. C'est-à-dire, c'est quand même, s'il n'y avait pas effectivement l'affaire Benalla qui tourne depuis des mois, il n'y aurait pas non plus ces problèmes de casting, il n'y aurait pas non plus cette forme de désorganisation à l'Élysée.
Qui a provoqué un grand ménage.
Qui provoque sans cesse des problèmes. Quand M. Émélien vient présenter son dernier ouvrage, que j'ai lu ce week-end, au lieu de parler d'idéologie dont c'est le manifeste, ça s'appelle manifeste, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est une idéologie qui isole la Macronie dans l'opinion. C'est une idéologie de winner, si j'ose dire, qui me paraît totalement décalée par rapport à l'état public, à l'état de l'esprit public.
Progressiste contre les nationalistes.
Quand M. Émélien et M. Amiel viennent parler de leur livre, de quoi on leur parle ? On leur parle de leur rôle dans le développement de l'affaire Benalla cet été. Et il y a bien non seulement cette affaire qui n'est pas résolue, qui n'a pas encore donné tous ses effets, et notamment il y a des problèmes, il y a quand même des poursuites qui sont engagées, il y a des problèmes juridiques. Il y a aussi des gens qui ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé et qui ne veulent pas être pris dans le maelstrom. Cette affaire est une affaire tout à fait importante et qui a un pouvoir, à mon avis, de désorganisation. C'est comme un gros bug dans la machine, si vous voulez. Ouais. C'est un pouvoir de désorganisation dans le cercle le plus proche de l'Élysée qui est très important. Et cette affaire produira des effets tant qu'on n'aura pas exactement compris quel était le rôle de M. Benalla et pourquoi il a été jusqu'à aujourd'hui à ce point protégé.
C'est pour ça que Nicolas Sarkozy dit que ça peut mal finir, que ça va mal finir. C'est une phrase qu'on lui prête en tout cas.
Ah, c'est une phrase extrêmement importante que celle que vous citez de Nicolas Sarkozy. Enfin,
qui est proche plutôt d'Emmanuel Macron, qui ne l'a pas critiqué publiquement, qui l'a même aidé et conseillé.
Parce que ça signifie que le malaise autour de la Macronie sort des catégories populaires et atteint les milieux que représente également M. Sarkozy. Et que donc, il y a l'idée que les peut-être classes, qu'un remplacement devient nécessaire, un changement d'équipe, si j'ose dire, pour défendre à peu près la même politique et les mêmes intérêts. Et le fait qu'on se dise, mais peut-être que la formule, qui semblait la formule magique il y a 2 ans, de la Macronie, avec le rassemblement des libéraux de droite et de gauche, et de la bourgeoisie de droite et de gauche, de fait, ce qui est assumé par Amélien, eh bien peut-être que cette formule-là est en train d'arriver à son terme, et du coup, il y a à droite, on commence à se préparer à prendre la relève.
Jérôme Sainte-Marie, vous venez de dire des choses fortes, et je voudrais faire réagir sur le sujet Olivier Véran, député de La République En Marche de l'Isère, Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien, auteur des péchés capitaux des politiques, chez Flammarion, c'est paru il y a quelques jours. Vous mettez notamment en avant la vanité d'Emmanuel Macron, grande force de travail, mais voilà, aussi quelques péchés de personnalité qui peuvent aussi expliquer une partie de la situation. On en parle jusqu'à 10h sur Europe 1, n'hésitez pas à réagir au standard si vous le souhaitez, Julie. Hein,
on vous attend. 39-21, bien sûr.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Du grand débat, la Macronie peut-elle retrouver un second souffle? On fait le bilan ce matin. Le Tour de France aura duré 80 jours. Il s'achèvera demain en Corse après plus de 100 heures de débat et dans un contexte social particulièrement tendu. Wendy Bouchard.
Avec un président qui n'aura pas ménagé sa peine, en effet, un marathon. Mais il y a des moments où son engagement peut paraître un peu sacrificiel. Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien, Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère, et Jérôme Sainte-Marie pour l'Institut d'études Pollingvox. Comme s'il s'enfermait dans une mission dont il n'arrive pas aujourd'hui à trouver totalement l'issue, c'est-à-dire rassurer les Français, redorer sa cote de popularité et la confiance qui lui est liée. Jérôme Sainte-Marie disait quelque chose de fort tout à l'heure, Olivier Véran, c'est qu'il y a une histoire quand même, une affaire peut-être qui empoisonne en ce moment la Macronie dans son ensemble et qui explique un rétrécissement, une bunkérisation, ce que vous voulez comme terme, c'est l'affaire Benalla. Vous en parlez forcément entre parlementaires. On ne sait pas ce qui se cache derrière cette affaire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, un poids ou un mystère ou un secret. On ne nous dit pas tout. Voilà, c'est le sentiment qu'on a sur ce sujet.
Alors, 3 éléments de réponse. 1, sur le rétrécissement d'abord. Parce que vous disiez, il y a un rétrécissement autour de la Macronie, etc. Pardon, mais moi, ce que j'ai entendu de la part de certains collègues il y a une semaine sur la liste En Marche aux Européennes, c'est que c'est une liste qui n'est tellement pas rétrécie que les gens En Marche d'origine ne figurent pas majoritaires sur la liste. C'est-à-dire qu'il y a un souhait d'ouverture très important. La numéro 1 n'était pas une En Marche historique, le numéro 2 était loin d'être un En Marche historique, etc., etc. Vous pouvez continuer sur le nombre de députés, eurodéputés qui seront élus sur la liste de Rassemblement En Marche. Vous compterez les nombres historiques, il y en aura 2 ou 3.
Il n'y a pas de poids lourd.
En termes de rétrécissement, je n'ai jamais vu sur une liste aux européennes, qui est pourtant souvent la liste dans laquelle on recase tous les uns. Regardez à droite, c'est du Morano, du Hortefeux et compagnie. Au PS, vous avez autant de candidats que vous avez de motions socialistes. Ça a toujours été comme ça que ça fonctionnait. Attendez, oui, parler de rétrécissement dans le contexte actuel où vous avez une liste européenne qui ne ressemble, comme jamais aucune liste n'a été construite, c'est-à-dire sans la base politique du parti, mais plutôt en fonction des compétences, c'est-à-dire le président des jeunes agriculteurs, il n'était pas en marche, hein, il est numéro 4 sur la liste. Bref, voilà sur ce point-là. Sur le deuxième point, est-ce qu'on parle entre nous à l'Assemblée nationale de l'affaire Benalla? On en a beaucoup parlé entre nous, l'été dernier, jusque vers la fin de l'année, et ensuite on a été préoccupé par autre chose qui nous a semblé plus important, honnêtement,
qui était
mouvement des Gilets jaunes, et surtout, voilà. Donc aujourd'hui, je vous promets, je vous donne ma parole d'honneur, je crois que je n'ai pas échangé ou je n'ai pas prononcé le mot Benalla avec un collègue parlementaire de la majorité depuis plusieurs semaines. Donc est-ce que c'est une préoccupation au sein de la majorité? Je ne crois pas. Ou alors je passe à côté de toutes les conversations de comptoir qu'on peut avoir, y compris d'ailleurs avec les députés de l'opposition. Est-ce que c'est une tache sombre sur le mandat? En tout cas, c'est évident que ça a été un moment très difficile. C'est un moment très difficile, on n'en voulait pas, personne n'a envie d'avoir, dans un contexte politique comme celui-ci, une histoire d'un individu qui vient peser sur le déroulement d'un mandat. Est-ce que c'est aujourd'hui le moteur, la clé des changements de l'entourage du président de la République? Est-ce que ça influe sur la façon de conduire la politique du pays? Très sincèrement, encore une fois, là-dessus, je ne le crois pas, vraiment. Donc voilà, l'histoire, l'affaire Benalla, d'ailleurs, je crois qu'on... Bon,
Voilà. C'est un chacun qui dure.
Non, mais chacun vous sincère.
Je ne pas donner. Non mais je peux pas vous donner l'impression de dire je protège la majorité.
Non, mais bien sûr, mais...
Donc il y a pas d'affaires et compagnie. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'évidemment que c'est quelque chose qui compte, qui a compté et qui parle aux Français. Et j'aurais vraiment préféré qu'on se passe de ce truc-là. Mais honnêtement, ce n'est pas le moteur de notre façon de procéder, de notre façon de fonctionner aujourd'hui. Et là-dessus, vraiment, je voudrais que les gens qui m'écoutent en soient convaincus.
Eh ben, je vous donne la parole juste après la pause, Olivier Bonon. Je suis désolée parce que j'ai tout décalé l'émission. C'est pour ça qu'on a des pauses toutes les 5 minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Les dernières minutes de l'émission consacrée au bilan du grand débat avec un président qui a étonné tout le monde en s'impliquant autant dans l'exercice, mais à quel prix ?
Peut-il faire remonter sa cote de popularité ? Et la Macronie dans son ensemble peut-elle retrouver un second souffle à l'issue de ce débat ? Olivier Véran, Jérôme Sainte-Marie et Olivier Beaumont pour réagir à cette tache sombre que serait l'affaire Benalla sur ce quinquennat. Olivier Véran vient de répondre. Olivier Beaumont, qu'en dit le grand reporter au Parisien ?
Oui, parce que cette affaire quand même, on nous avait dit pendant l'été que c'était pas une affaire d'État, c'était une affaire d'été. C'est une affaire qui dure un peu plus longtemps que prévu. Et puis, chaque semaine, encore son lot de révélations. Et il suffit, Jérôme Sainte-Marie l'a rappelé, que Ismaël Emelien et David Amiel sortent un livre pour que leur communication soit parasitée et qu'elle les ramène justement à leur rôle dans cette affaire. Rôle pour lequel ils ne donnent pas d'explication, comme Emmanuel Macron ne donne pas d'explication. Et je pense que c'est ça aussi la clé du problème.
C'est
et ça. Pourquoi
c'est
ce sujet...
C'est qu'il y a un mystère qui demeure.
Et voilà, et il suffit de s'inviter dans les repas de famille le dimanche pour voir que cette affaire Benalla, elle continue de passionner les Français. Emmanuel Macron, il avait dit au cœur de l'été, fin juillet, qu'il vienne me chercher, façon de dire... Si on posait des questions, je m'expliquerai auprès des Français, j'ai rien à me reprocher. Sauf qu'il ne s'est jamais expliqué vraiment sur sa relation avec Alexandre Benalla, pourquoi cet individu a continué de voyager, de circuler avec un certain nombre de passeports diplomatiques alors qu'il n'était plus en fonction et tout. Et moi, je me souviens de questions, de conversations avec l'entourage d'Emmanuel Macron, cette fameuse affaire des passeports, qui eux s'étonnaient que nous étonnions. Qu'il ait continué à voyager, notamment à faire plusieurs voyages en Afrique. Alors, on sait tout ce que ça peut renvoyer, l'Afrique, hein, sur le côté un petit peu sulfureux, hein, la France-Afrique, l'argent et
barbouze,
tout. Le côté barbouzard. Et on a Ismaël Emelien, dont on sait qu'il a diffusé une vidéo un peu bidonnée, sous un compte anonyme, à l'heure où Emmanuel Macron ne cesse de dénoncer les fake news et tout ça. Donc, tout ça, quand même, renvoie à quelque chose de très sombre, de très nébuleux, de très étrange, qui font que pour les Français, forcément, c'est savoureux à souhait. De commenter comme
c'est
ça sûr. Cette petite cuisine élyséenne.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, j'imagine qu'en nous écoutant, certains auditeurs se disent mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de cette petite affaire, cet individu, et non pas des grands sujets de la société française.
Olivier Véran en a parlé, heureusement.
Parce que oui, Olivier Véran en a parlé, justement.
Une minute, mais, j'ai glissé une minute de...
Mais c'est
une
minute 30, quoi.
Sauf que là, on parle quand même de la manière dont le pays est gouverné, et la communication, et même de la gestion présidentielle. Or, on est déjà un régime qui repose sur sa pointe, c'est la Ve République, où il y a une énorme centralisation des pouvoirs. Ça a été, qu'on le veuille ou non, accru par Emmanuel Macron, via la création d'un parti à son nom, d'un groupe parlementaire qui lui est entièrement dévoué, etc. Et il a tout refondé lui-même. Il a donné, et il a assumé, un style monarchique à sa présidence. Eh bien,
Le soir de son élection.
On a un système politique qui est hyper centralisé, qui est tout le contraire d'ailleurs de la démocratie représentative. Et d'ailleurs, quand on parle de démocratie représentative, on est obligé de faire un truc qui s'appelle le grand débat, où les gens parlent, mais à la fin, ils votent pas quand même. Donc, c'est pas de la démocratie, c'est de l'expression, c'est de la consultation. Eh bien, quand vous avez ce style de gestion politique, de régime assez unique en Europe, assez unique parmi les démocraties, ce qui se passe au sommet, ce qui se passe dans la cour, prend une importance peut-être disproportionnée. Mais ça, c'est la faute à l'organisation même des institutions et au style macronien.
Oui, c'est quand même pour terminer, voilà, une minute pour conclure.
Ouais, je souris parce que, encore une fois, du quinquennat Sarkozy, on disait le château pilote tout, il n'y a pas de Premier ministre. Et donc, il incarnait tout.
Il y avait une équipe qu'on connaissait quand même. Regardez Franck Louvrier pour la communication.
Vous voyez Sarkozy, il y avait toutes les semaines dans le canard, Sarkozy craquait, s'énervait contre son équipe, etc. Il parlait de son Premier ministre comme d'un collaborateur. Enfin, voilà. Après, vous avez eu Hollande où on disait, Hollande, il maîtrise rien, finalement, il contrôle rien. Regardez les frondeurs, il a pas de... Les parlementaires, non seulement ils sont pas à sa botte, mais ils sont contre lui. Vous vous rendez compte, ils ont parlé, ils ont dit des trucs qui étaient pas d'accord avec le président. Ça veut dire que le pays est pas gouverné. Et là, on est... Pardon, mais je veux bien qu'on cherche ensemble dans les archives de tous les bouquins, de tous les ouvrages, de tous les articles qu'on peut être publiés depuis 40 ans sur la gouvernance dans notre pays, où on a un problème de République, de fonctionnement de la République, ou alors on a un problème de satisfaction vis-à-vis de l'exercice du pouvoir, ou de confiance dans la politique. C'est peut-être un peu détroit, mais je cherche et je pense que dans 20 ans, on pourra donner rendez-vous et trouver un mode d'exercice du pouvoir qui soit capable de satisfaire tout le monde.
Et ben
c'est pour ça que, plutôt que la méthode encore une fois, je regarde.
les résultats.
Je regarde les résultats.
Très bien, on a des résultats qui sont sur les deux.
Non, mais ouais. Si vous voulez, c'est rageant. Je veux dire, si le chômage augmentait, que les impôts augmentaient, que les Français, en ce moment, c'est pas le cas. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. La dernière fois que la Sécu était à l'équilibre, la France était championne du monde, mais c'était la précédente.
Merci,
on a des
Olivier
trucs qui
Véran.
Sont positifs. Voilà, on peut aussi. Alors, énergie positive, on a besoin dans ce pays.
Alors, pour vous donner des gages sur la conjoncture et sur les présidents, nos présidents dans la tourmente, sachez qu'il y a une série originale produite par Europe 1 qui sort aujourd'hui sur notre site internet avec Olivier Duhamel qui revient sur les grandes crises traversées par les présidents de la 5e République. Ça commence avec De Gaulle et ça se poursuit jusqu'à Emmanuel Macron, de mai 68 au Gilet jaune avec les meilleures archives d'Europe 1. Vous pouvez vous abonner sur europe1.fr, sur Apple Podcast. Merci Olivier Véran, député de La République En Marche de l'Isère. Merci Olivier Beaumont, grand reporter au Parisien. Je rappelle votre livre, Les péchés capitaux des politiques chez Flammarion. Et Jérôme Sainte-Marie, on attend votre livre pour la rentrée, si je ne m'abuse. Vous faites beaucoup de choses.
Merci à vous.
Président de l'Institut de conseil d'études Pauling Vox. Merci, à tout de suite pour parler des océans.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.